Instant.com.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'écouter Radio Orient. Il est midi, votre rendez-vous d'information avec Nawel El Amouchi et Loïc Barrière. Au sommaire de ce point actualité, le Hamas a libéré ce matin les 20 derniers otages israéliens vivants qui étaient retenus dans la bande de Gaza et des cars qui transportent des détenus palestiniens libérés par Israël arrivent en ce moment même à Ramallah en Cisjordanie. Un échange qui marque le début de la première phase de l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Et en ce moment même, Donald Trump et Benjamin Netanyahou sont ovationnés au Parlement israélien. Et cet après-midi, se tiendra à Sharm el-Sheikh, en Égypte, un sommet international consacré à la situation à Gaza. Dans l'actualité en France, Emmanuel Macron a appelé les forces politiques à œuvrer à la stabilité et non à faire des paris sur l'instabilité au lendemain de la nomination du nouveau gouvernement de Sébastien Lecornu, déjà menacé de censure. Le Hamas a libéré ce matin les 20 derniers otages israéliens vivants qui étaient retenus dans la bande de Gaza et des cars qui transportent des détenus palestiniens libérés par Israël arrivent en ce moment même à Ramallah en Cisjordanie. Au total, 1966 prisonniers palestiniens doivent être libérés des prisons israéliennes dans la journée. Un échange qui marque le début de la première phase de l'accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Et cet après-midi se tiendra à Sharm el-Sheikh en Égypte, un sommet international consacré à la situation à Gaza. Il sera co-présidé par le président égyptien et Donald Trump, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le président palestinien Mahmoud Abbas seront présents. On reste au Proche-Orient, en Syrie. Le chef des Kurdes a dit qu'il s'était mis d'accord en principe avec le gouvernement de Damas pour que ses troupes rejoignent les forces de sécurité syriennes. Et dans l'actualité en France, Emmanuel Macron a appelé les forces politiques à œuvrer à la stabilité au lendemain de la nomination du nouveau gouvernement de Sébastien Lecornu, un gouvernement déjà menacé de censure par la France insoumise et le Rassemblement national. Sébastien Lecornu prononcera demain sa déclaration de politique générale à l'Assemblée nationale. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi ce rendez-vous d'information. Place à présent au dossier du jour. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Orient. Dans votre dossier du jour, le Proche-Orient, 2 ans après les attaques du 7 octobre et la guerre contre la bande de Gaza, le Hamas a libéré ce matin les derniers otages israéliens encore vivants. Une libération qui est intervenue avant un sommet international en Égypte consacré à Gaza. On fait le point avec vous, Loïc Barrière.
Oui, Nawal, au quatrième jour de cessez-le-feu, les 20 derniers otages israéliens vivants qui étaient retenus dans la bande de Gaza ont été libérés en attendant le retour des 28 dépouilles d'otages. Et dès l'annonce des premières libérations, des milliers de personnes ont explosé de joie. Place des otages à Tel Aviv. En échange des otages, Israël a commencé à libérer 250 Palestiniens détenus pour des raisons de sécurité, dont de nombreuses personnes condamnées pour des attentats. On attend aussi le retour de 1700 Palestiniens arrêtés à Gaza depuis le début de la guerre. Hier, avant la libération des otages, Benjamin Netanyahou avait annoncé qu'Israël avait remporté la victoire, mais en même temps, avait-il averti, la lutte n'est pas terminée.
C'est donc la première phase du plan Trump pour ramener la paix dans la bande de Gaza. Et ce lundi est aussi marqué également par un sommet international en Égypte destiné à préparer l'après-guerre.
Oui, en effet, d'abord, Trump et Netanyahou ont été ovationnés tout à l'heure au Parlement israélien. Le président américain s'apprête à prononcer un discours devant les députés israéliens. Puis il va rencontrer les familles des otages, un sommet voulu par Donald Trump, qui sera à Sharm el-Sheikh aux côtés de Benjamin Netanyahou et Mahmoud Abbas, une affiche inédite. Trump et le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi vont présider ce sommet sur Gaza en présence de dirigeants de plus de 20 pays et du secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres. Emmanuel Macron, qui avait lancé une initiative avec l'Arabie Saoudite pour reconnaître l'État palestinien, sera présent également, mais le Hamas n'a pas été invité, contrairement à l'Iran qui a décliné l'invitation. Les pays médiateurs doivent signer la déclaration de Gaza. Il s'agit des États-Unis, de l'Égypte, du Qatar et probablement de la Turquie. Ensemble, ils aborderont la deuxième phase du plan Trump, la mise en place d'une administration provisoire à Gaza et le désarmement du Hamas. Le plan prévoit l'exil des membres du Hamas et la poursuite du retrait israélien de Gaza. Une étape qui laisse de nombreuses questions ouvertes. Qui va composer la force de stabilisation à Gaza? Et le Hamas acceptera-t-il d'être désarmé? Enfin, à l'image d'Emmanuel Macron, beaucoup s'interrogent sur l'avenir de la Cisjordanie occupée et la création effective d'un État palestinien.
Merci à vous Loïc Barrière pour toutes ces précisions. Et notre second dossier du jour est consacré à l'actualité au Maroc. C'était un discours très attendu. Vendredi soir, le roi Mohamed VI s'est adressé au Parlement dans un contexte de mobilisation d'une partie de la jeunesse à l'appel du collectif Gen Z 212. Dans son allocution, il a appelé le gouvernement à accélérer les programmes de développement, en particulier dans les domaines de l'éducation et de la santé, deux des principales revendications des manifestants, mais sans les mentionner directement. Pour Abdeslam Sediki, ancien ministre marocain de l'Emploi, Mohamed VI s'est d'abord adressé aux parlementaires dans un contexte particulier. On l'écoute.
C'est une réponse en clos en quelque sorte, sans citer, comme vous venez de le dire, la génération Z, parce que ce n'est pas le moment. Le roi s'adresse avant tout aux parlementaires, dans un contexte, comme vous venez de le dire, particulier. Il n'y a pas que le mouvement des jeunes. Il y a aussi les attentes du peuple marocain dans son ensemble, et les revendications exprimées par les travailleurs aussi, par les paysans. N'oublions pas que durant l'été dernier, il y a eu quand même des marches de la soif, des marches notamment pour avoir de l'eau potable, pour avoir du travail, c'est dans des zones reculées. Donc le pays est en effervescence. Mais le roi n'est pas là pour répondre d'une façon instantanée. La vision royale, c'est une vision à long terme. C'est une vision qui transcende la conjoncture tout en intégrant la conjoncture en quelque sorte. Et la réponse du roi était claire. Il dit voilà, on ne peut pas opposer, comme vous venez de le dire, les projets nationaux d'envergure dont le Maroc a besoin. Bon, il n'y a pas que le stade. Il y a des stades, il y a les autoroutes, il y a les aéroports, il y a l'extension de la ligne grande vitesse. Tout cela est en marche actuellement. Et se engager. On ne peut pas faire machine arrière, nous avons une perspective. Mais en même temps, ces projets-là ne doivent pas marginaliser les projets qui ont trait à la satisfaction des besoins prioritaires de la population, dont notamment l'éducation, la santé, l'eau potable, l'emploi. Et Dieu sait le taux de chômage que nous avons, notamment au milieu des jeunes, c'est pratiquement la tranche d'âge 15-24 ans. Ça atteint jusqu'au milieu urbain, ça atteint pratiquement 50%, c'est 47,5% de taux de chômage. C'est inquiétant. Donc, mais tout cela, ça ne se résout pas par un coup de baguette magique.
Et vous évoquez les zones reculées, monsieur le ministre. Et justement, les habitants de ces zones ne voient pas les bénéfices de tous ces chantiers mis en œuvre. Et quand le roi souligne qu'il faut accorder un intérêt particulier aux régions en situation de très grande précarité, notamment dans les zones montagneuses et l'Oasis, il est important de prendre en considération les particularités et le potentiel de ces régions, dit-il. Et cela couvre 30% du territoire marocain.
Tout à fait. Il faut dire que nous avons fait un effort. Nous avons mobilisé une enveloppe de 50 milliards de dirhams qui s'adressait justement à ces zones montagnardes. Force est de constater que les résultats n'ont pas été à la hauteur des moyens qui sont mobilisés. C'est pour cela que le roi a utilisé une formule. Il a dit qu'il faut que nous ayons la culture des résultats. C'est-à-dire qu'il faut, autrement dit, qu'il y ait des cultures de résultats, de façon claire, dit la reddition des comptes. Il faut que les responsables rendent des comptes sur leur programme, parce que nous dépensons beaucoup d'argent avec peu de rentabilité. C'est valable dans toutes les lignes budgétaires, pas même, y compris au niveau de l'investissement public. Il y a beaucoup de gaspillage, beaucoup de pertes, et il faut que nous changions de pratique de travail. Il faut appliquer la reddition des comptes tel qu'il est mentionné par la Constitution. Et je crois que c'est un avertissement, parce que bon, c'est vrai que...
Un avertissement adressé à qui?
Adressé à tout le monde, au gouvernement d'abord, aux élus locaux, parce qu'ils ont la responsabilité, aux parlementaires. Il y a beaucoup de parlementaires, comme vous le savez très bien, pratiquement une vingtaine de parlementaires qui sont sous les verrous actuellement. Ce n'est pas ça, parce qu'ils sont impliqués dans des trafics de drogue, dans la corruption, etc. Donc il faut que la loi sévisse. Mais le roi se veut constructif. Il ne doit pas aborder ces questions dans une séance d'ouverture parlementaire. Il a été positif, constructif, et il a mentionné le travail qui est fait par le Parlement, même dans ces conditions-là, notamment au niveau de la diplomatie parlementaire. Notre Parlement a fait un travail colossal pour défendre la question nationale, notamment en Amérique latine. Nous avons gagné beaucoup d'amis, et grâce au travail parlementaire, bien sûr, qui accompagne la diplomatie officielle.
C'était Abdeslam Seddiki, économiste et ancien ministre marocain de l'Emploi, au micro de François-Xavier de Calonne. C'était vos dossiers du jour. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. Et je vous souhaite une excellente suite des programmes sur Radio Orient.